BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club, ils viennent de nous rejoindre, de s'installer à l'instant. Frédéric Ducrozet, il est de passage à Paris, Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume.
Et vous adorez passer à Paris, hein, Frédéric.
J'adore.
Ouais. C'est bien Paris quand on n'y vit plus, hein, c'est ce qu'on dit souvent, et c'est un peu ça.
Plein de raisons d'y revenir.
Et Thibaut Prévet aussi est avec nous. Rebonjour Thibaut.
Rebonjour.
Re, parce que vous êtes en fil rouge avec nous, économiste indépendant, auteur de Démographie, la bombe tranquille. C'est aux éditions du Rocher, en vente depuis un mois à peu près, Thibaut.
Absolument.
On en parlera de démographie effectivement tout à l'heure également. Les marchés sont en baisse aujourd'hui, une petite respiration, mais rien de méchant. Après 9 hausses d'affilée, le S&P ne perd que 0,3% cet après-midi. Frédéric, quand vous regardez le visage des marchés en ce moment, alors que l'économie ralentit un peu, on parlera des stats américaines du jour dans un instant, et que les marchés qui sont au plus haut, portés, dopés par l'hormone de croissance, quoi, l'intelligence artificielle, vous vous dites quoi? On plane ou c'est rationnel?
Les profits des entreprises, c'est une réalité, c'est pas une prévision. Il y a aussi une prévision de profits qui sont tout aussi stratosphériques pour les années à venir. Mais le fait est que ces profits, c'est de l'argent réel, ce sont des dollars qui rentrent dans les caisses. On peut pas, quelque part, lutter contre ça. Et donc, il y a ce momentum très fort. Il y a une respiration, il y a peut-être même des signaux un peu techniques de positionnement qui font que cet essoufflement était attendu à un moment ou un autre. Mais le fait est que, tant qu'on a l'espoir, en tout cas, d'un cessez-le-feu ou d'une forme de résolution du conflit et que le prix du pétrole finira par baisser. Il semble que cette économie américaine, en tout cas, et ses entreprises, et ça, son secteur technologique surtout, sont en mesure de poursuivre cette lancée. Et effectivement, c'est difficile de se mettre contre. On ne peut pas shorter le marché aujourd'hui dans ces conditions.
On ne peut pas shorter le marché dans ces conditions.
Ce que je vois en revanche, c'est... alors, il n'y a pas une forme de capitalisation, elle est déjà très élevée, mais capitulation non. En revanche, beaucoup d'investisseurs vont adopter des formes de stratégie d'un peu de type barbelle en se protégeant, parce que la volatilité elle aussi est étonnamment faible. Et donc c'est peu cher de se protéger sur des puts sur le S&P tout en restant investi massivement dans les entreprises de la tech.
Mais alors ce qu'on voit aussi dans le marché, c'est qu'un certain nombre de secteurs ou de valeurs qu'on disait quasi mortes, quoi, en tout cas sans avenir, qui étaient shortés, ben se réveillent d'un coup parce que il y a des notes, des commentaires qui disent non, mais cette valeur que le marché avait shortée, elle profitera aussi de l'IA. Et ceux qui shortaient, donc d'un seul coup, débouclent leur position short, ce qui les fait rebondir. On voit aujourd'hui, par exemple, Valeo, on est dans l'univers automobile, gagner d'un coup 20% juste parce que JP Morgan nous dit Valeo aussi profitera de l'IA. Pourquoi? Parce que Valeo, ils font des systèmes de refroidissement de batteries pour les voitures. Les voitures, c'est leur truc, hein, l'équipementier auto. Ces systèmes de refroidissement pour voitures serviront aussi au data center de l'IA. Plus 20% Valeo.
C'est ça la difficulté. C'est pas un événement, c'est une séquence d'événements et de diffusion, d'adoption de cette technologie qui ne s'arrêtera peut-être d'ailleurs jamais, qui fait des gagnants, des perdants. Les softwares, avant ça, ont connu aussi leur roller coaster et peuvent se reprendre. Et puis, au sein même de ces secteurs-là, il faut identifier les bonnes entreprises. Mais encore une fois...
Il y a des positions short d'un coup débouclé, parce qu'on se dit autant le marché est hyper optimiste sur l'avenir de l'IA, autant sur plein de secteurs, le marché au contraire a tendance à les vendre en disant ils n'ont plus d'avenir, peut-être en allant trop vite en besogne. Et d'un coup donc ces positions short se débouclent.
Tout à fait. Et par-dessus ça, je pense que le rallye de cette année en particulier, contrairement à la reprise post-Liberation Day de l'année dernière, n'est pas tiré par les investisseurs des particuliers, du retail. Et donc il y a cette volatilité supplémentaire, l'économie elle souffre quand même. Et toute chose égale par ailleurs, on voit que le consommateur américain n'est pas au mieux. On va en reparler, mais on verra le rapport sur l'emploi. Il y a quand même au minimum un ralentissement de la consommation quand on fait face au plus gros choc pétrolier de l'histoire. Et donc, on peut imaginer que le dernier élément de ce rallye, s'il y a un petit plafonnement et un petit top local, c'est effectivement cette dernière contribution de l'investisseur retail qui, lui, n'a pas participé. Donc, si vous avez ça, plus potentiellement des bonnes nouvelles enfin sur l'Iran, mais des vraies, vous pouvez avoir des débouclements, effectivement, de positions short sur certains secteurs.
Oui, on verra s'il y en a encore beaucoup, des débouclements de positions short. En tout cas, le marché reste quasiment au plus haut. Les introductions en bourse arrivent, hein, ces grandes introductions en bourse. SpaceX, sans doute, vendredi de la semaine prochaine, dans 9 jours. Ensuite, Anthropic, OpenAI. Certains nous disent que c'est mauvais signe. Quand il y a un pic d'IPO, souvent, ça précède un krach de marché. Historiquement, on a vu plusieurs fois des krachs de marché juste quelques mois après un pic d'IPO, Thibaut.
Bah, oui, tout à fait. Il faut comprendre un truc, c'est qu'une introduction en bourse, c'est de la vente d'actions. Enfin, c'est aussi basique que ça. Vous avez quand même plutôt tendance à faire des ventes d'actions quand vous pensez que vous les vendez bien, ce qui est un peu naturel. Et si tout le monde se jette pour vendre ses actions, c'est qu'ils pensent qu'ils ont un prix optimal pour les vendre. Donc de toute façon, il n'y a pas de grande surprise. Quand les marchés sont au point bas, vous ne vous dites pas « tiens, si j'allais lever des capitaux ». Donc tout cela va... quand même globalement bien ensemble. Et puis c'est vrai que si vous venez lever beaucoup de capitaux, vous pouvez essorer un peu, parce que les montants levés sont malgré tout très importants, même si c'est des petites fractions de mégaboîtes, donc vous essorez un peu le nouvel argent qui devait venir dans le marché. Et donc après, vous pouvez avoir un peu de sortie. Maintenant, je pense que tout ce genre de grandes règles, d'investissements en mail, machin, les trucs, ça c'est des règles qui sont amusantes intellectuellement, mais la réalité est qu'aujourd'hui, pour imaginer une correction sur le marché, on n'a pas besoin de ça. Et surtout, il faut comprendre qu'il faut regarder les deux côtés. Si on avait une correction de 20% aujourd'hui du marché, on ne viendrait pas à des niveaux déprimés du tout. Et d'un autre côté, il faut aussi le dire, ce ne serait pas du tout un problème, parce que par rapport à la tendance de long terme, des corrections de 15-20%, on en a tout le temps, sans que ce soit un drame. Donc je pense qu'il faut accepter l'idée que ça fait partie du marché de parfois s'emballer, de se faire ramener un peu à terre pour reprendre le go. Après, effectivement, là où je suis d'accord, mais un tout petit peu moins d'accord, c'est que en réalité, il faut se rappeler que les valeurs de la tech, surtout quand on parle de Nvidia, c'est des chiffres d'affaires microscopiques par rapport aux résultats qui sont monstrueux. Et donc, en fait, sur l'économie globale américaine, ça pèse en fait que dalle. Par contre, ça fait des résultats monstrueux. Mais le consommateur américain tire un peu la gueule, et je pense que le risque que le consommateur américain lâche un peu, et peut-être et que certaines boîtes commencent à être pas bien, est plus important que le potentiel supplémentaire dans le cas où ça se résoudrait, sachant qu'en plus, quand ça se résout, comme il faut quand même un certain temps pour que le transport de pétrole se fasse, il faudra un bout de temps avant que le pétrole, en tout cas sur la réalité de la disponibilité, oui, baisse. Donc je dirais qu'aujourd'hui...
Vous disiez quand la fin de la guerre en Iran, la réouverture d'Hormuz, n'empêcherait pas la poursuite des difficultés de l'économie américaine et des économies d'infuser, de s'élargir, de s'approfondir et de durer, quoi. Il y aurait une persistance des difficultés.
J'aime rappeler ce point, si vous le permettez, que j'aime bien dire, mais un peu provoque, c'est de rappeler que les États-Unis sont neutres, on va dire légèrement positifs en export de pétrole, comme l'est la planète. Mais ça ne dit rien si vous ne regardez pas dans le détail ce qu'il y a dedans. Aux États-Unis, vous avez des majors pétrolières qui gagnent un pognon de malade, c'est super, mais le gars du Midwest qui fait son plein, qui vient de se prendre un plus 50% dans la tête, ça lui fait une belle jambe de savoir qu'Exxon va faire une super année, mais la réalité, c'est qu'il doit faire des efforts sur tout le reste de son pouvoir d'achat. Et il n'y a aucune flexibilité, contrairement en France, aucune aide, aucun pétrolier qui dit « je vais baisser les prix ». Donc l'impact aujourd'hui sur le consommateur est très fort. Comme il est très costaud, ça peut tenir. Mais il est vrai que pour beaucoup d'entreprises, ça commence à être un problème, sauf qu'elles pèsent absolument rien sur les marchés financiers. Par contre, si elles commencent à avoir des défaillances ou des difficultés plus importantes, ça peut jouer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on pense aux crises de dette privée, au côté systémique. Moi, je pense que ce n'est pas des risques énormes. Mais comme elles sont pricées à rien par le marché, l'idée qu'on peut avoir un peu de descente là-dessus. Donc je dirais qu'effectivement, on est aujourd'hui sur une situation qui est plus symétrique, voire asymétrique à la baisse, compte tenu de ces éléments de risque, qui sont parfois un peu noyés sur le côté, ils sont exportateurs en pétrole. Je pense que c'est un point, être exportateur en pétrole pour les US, c'est un point géopolitique.
Oui, oui.
C'est moins un point économique que ce qu'on pense.
Oui, mais alors Frédéric, on dit, on n'arrête pas de dire ici, et Thibault appuie là où ça fait mal, le consommateur américain souffre et risque d'encore souffrir durablement. Peut-être, on voit le marché de l'emploi, on a eu des chiffres aujourd'hui, l'enquête ADP, il est résilient ce marché de l'emploi malgré tout ce qu'on raconte. 122 000 créations de postes en mai aux États-Unis.
On n'a pas d'éléments qui, pour l'instant, laissent penser que l'IA en particulier détruit des emplois à grande échelle. C'est vrai. Mais on n'a pas non plus, pour l'instant, une reprise du marché du travail. On a un taux de chômage très faible parce que la population, la croissance de la population, un thème cher Thibault, qui reste extrêmement faible. On ne va pas faire non plus que de la pub, mais non, il y a l'immigration plus la population et la démographie qui fait que ce taux de chômage, voilà, il est à 4 et quelques pourcents, mais bon, c'est pas un marché du travail extrêmement fort. Et puis surtout, ce consommateur, il n'y en a pas qu'un. Il y en a au minimum deux. Le cas dans l'économie est toujours bien marqué. Les inégalités d'emploi, de salaire et de richesse sont monstrueuses. Et la conséquence de ce rallye, je pense que c'est ce que j'ai personnellement sous-estimé ou collectivement aussi, le boom de l'investissement, le boom des marchés a créé encore un effet richesse encore plus important que ce qu'on imaginait, qui là aussi soutient la consommation. S'il y a correction... C'est un argument, effectivement, en termes d'asymétrie des risques, il va là aussi vers, dans le sens de à la baisse, hein, parce que plus de 40% de la richesse des ménages maintenant est dans les actions, un record historique. Donc si on a d'aventure cette année, plus tard, après les IPO, une baisse de l'ordre de 20 ou 25% des marchés, ça peut se ressentir cette fois sur l'économie réelle aussi.
Oui, mais encore une fois, c'est une minorité qui profite de cette hausse, de l'ampleur de la hausse des marchés. C'est une minorité, du coup, qui souffrirait de la hausse des marchés parce qu'on n'arrêtait pas de dire avant, c'était mieux partagé. Là, si les marchés corrigent, ce sera les ultra-riches qui en souffriront, un peu moins les classes moyennes, puisqu'on dit qu'ils sont moins exposés.
C'est vrai, mais on vient de vivre 3 mois et on vit encore dans cet environnement totalement incertain, oui, ubuesque sur les déclarations du président et le cessez-le-feu qui ne vient pas. Il y a 3 mois, on était dans une situation complètement différente. Faut pas oublier l'aspect budgétaire. qu'on s'attendait à ce que K se referme, à ce que le consommateur, dans les revenus les plus bas, voit des perspectives s'améliorer et le marché du travail vraiment rebondir. Donc quelque part, c'est là où on est un petit peu dans le flou encore. D'accord. Il y a un soutien qui est là potentiellement, qui est latent. C'est là aussi pourquoi on pense que à terme, effectivement, l'économie américaine peut toujours tenir, même si les taux d'intérêt restent élevés. C'est parce que les conditions étaient plutôt bonnes initialement il y a 3 mois. Et tout dépend encore une fois de la durée de ce conflit. Je suis également d'accord avec l'idée que le marché me semble complaisant sur la baisse du pétrole, même en cas de résolution.
Et sur le marché obligataire, est-ce qu'on a trop de complaisance? Parce qu'on s'était fait très peur il y a 10 jours, 2 semaines, avec des taux obligataires qui montaient en flèche. Et puis là, ça s'est complètement assagi. Le chemin là qui nous attend, le chemin historique dans lequel on est, c'est une poursuite à la hausse des taux, mais ça passe sur les marchés, ou c'est une poursuite à la hausse des taux et ça va casser?
Pour les marchés actions, c'est pas tant le niveau du taux d'intérêt qui compte. C'est d'abord combiné à la croissance nominale, tout simplement. Si vous avez énormément de croissance, vous avez des taux plus élevés, tout va bien, les profits des entreprises tiennent, etc. Oui. C'est plutôt la vitesse d'ajustement, c'est plutôt le move. La volatilité du marché actions qui compte, du marché obligataire qui compte pour le marché actions, et c'est la valorisation du marché actions qui est dépendante de ces taux d'intérêt. Donc c'est une équation un petit peu plus compliquée. Pour le moment, ça tient. Je dirais qu'on est, tant qu'on n'est pas à 5% ou au-delà sur le 10 ans américain, c'est une équation qui peut là aussi tenir.
Ça peut tenir quand même, Thibault. Vous êtes à cheval sur le marché obligataire, marché actions.
C'est-à-dire, déjà, il faut rappeler que le marché obligataire, c'est un marché de rupture. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire quand quelqu'un a un problème, il a un problème. Quand tout le monde a un problème, on n'a pas de problème. Quand tous les pays étaient en difficulté pendant le Covid, toutes les banques centrales rachètent de la dette, ce qui de facto revient à les annuler et tout se passe bien. Un peu comme en France, quand toutes les boîtes sont bloquées avec le Covid, on fait des emprunts pour tout le monde à zéro et ça fonctionne. Quand une boîte est tout seule ou qu'un pays est tout seul, par exemple, que le Royaume-Uni avait fait un peu guignol, on se fait vite sécher. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse en tête que le côté homogène de cette correction liée au détroit d'Ormuz est en soi beaucoup moins problématique que quand elle est unitaire. Ensuite, aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas dans des valorisations rationnelles. On le disait aujourd'hui, personne ne va aller à l'introduction de SpaceX en disant « j'ai fait un DCF », c'est-à-dire une valorisation papier sur les flux de cash à venir, et dit « j'ai une valorisation ». Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans un marché de valorisation hard. Donc, en fait, tout le monde s'en fout, donc ce n'est pas grave. En revanche, le sujet, à quel moment il y a une rupture, plus personne ne veut financer, etc., on n'est pas là-dedans. On est dans des réajustements de niveau de taux par rapport à l'inflation. Ouais. On n'est pas des niveaux de taux où tout le monde balance du papier et plus personne n'en veut. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque.
En fait, l'obligataire, c'est le sujet pour les États, mais pas pour les marchés aujourd'hui.
Non, mais ça peut le devenir. Mais aujourd'hui, il est clair que de par le côté très homogène, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si les taux américains étaient à 5,50 pendant que les autres baissaient, on pourrait se dire tout le monde est en train de lâcher le papier américain. Oui. Ça va vite mal se passer. C'est pas du tout le contexte aujourd'hui, donc je pense qu'il faut accepter le fait que c'est une mauvaise nouvelle, que budgétairement c'est problématique pour très longtemps, parce que toutes les nouvelles levées de fonds vont bloquer des taux importants sur des nouvelles dettes, donc ça va être évidemment un sujet, mais c'est pas dramatique. En tout cas, à ce stade.
On a cette question d'une auditrice ou d'un auditeur, je ne sais pas si c'est il ou elle, Mila077 sur le Félix BFM Bourse. La tech, je vous livre sa question, vous pourrez y répondre chacun. La tech qui monte donc, va-t-elle compenser le vieillissement démographique? Je sens que c'est vous qui allez répondre, Thibault. Va-t-elle compenser le vieillissement en augmentant la productivité mondiale et ainsi nous offrir une croissance infinie? La tech, compenser le vieillissement grâce à plus de productivité.
Ah, je suis très embêté pour cet auditeur qui a manifestement pas lu démographie la bombe tranquille. Quelle erreur. Écoutez, le problème, c'est de comprendre une chose, c'est qu'il faut pas parler toujours en termes de croissance. Aujourd'hui, la tech, c'est plus un facteur de croissance, c'est un facteur de gain de productivité, c'est un facteur de comment on fait mieux avec moins de gens. Donc, c'est même pas forcément. Donc, et de par là, c'est une très bonne solution si on a un problème de main-d'œuvre. Donc, c'est tout à fait plus une solution au ralentissement démographique que si ça générait juste de la croissance en plus. Là, en l'occurrence, on est en train de se dire que c'est plutôt parfois des bons hommes en moins. Pas énormément de bons hommes en moins, mais à terme, c'est plutôt des bons hommes en moins. Donc, c'est évidemment une solution. La seule difficulté qu'on a, c'est juste un peu comme pour le technosolutionnisme sur la partie verte, c'est de se dire, ça peut gérer des sujets, ça serait quand même bien qu'on adapte nos systèmes sociaux pour que si ça se révèle une solution moins bonne que prévu, on n'ait pas plus de capacité à soigner ou à avoir des retraites. Donc je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif, mais avec un vrai risque, c'est que ça nous aveugle sur le fait d'avoir d'autres solutions alternatives et d'assurer des financements sains de nos programmes sociaux. Donc je dirais plutôt oui, à condition de ne pas compter que là-dessus.
La tech va-t-elle compenser le vieillissement grâce à la hausse de productivité et nous offrir une croissance infinie? Question de cet auditeur ou auditrice Mila077.
Il faut espérer que ça règle un certain nombre de problèmes ou que ça nous aide à les régler. Et pour mettre en œuvre toutes les mesures dont on vient de parler, il faut des marges de manœuvre budgétaires. Moi, ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est un stress test en grandeur nature qui met en évidence les vulnérabilités, les éléments faibles, les maillons faibles. Le Royaume-Uni avec Liz Truss et le premier moment comme ça dans le marché obligataire a été un premier exemple. Le Japon est un pays que je surveille toujours et en particulier en ce moment. Il y a un graphique très simple. Les taux japonais ne font que monter. Le cours de bourse des banques japonaises également. Et je pense que tout est résumé là-dedans. tant que vous avez de la croissance, tant que ça se fait de manière intelligente, tant que vous mettez en œuvre ces mesures pour permettre l'adoption de cette technologie et bah, permettre, on l'espère, de résoudre des problèmes, ça ira. Si un jour, parce que la croissance casse, qu'on est trop haut, ou parce que les banques japonaises qui détiennent évidemment une énorme part de la dette nationale ont un problème, alors c'est une autre configuration. Et je pense qu'à ce moment-là, les taux rebaissent pour des mauvaises raisons.
On poursuit nos échanges, on est à 16 minutes de la clôture. On essaie de mesurer le pour, le contre face à cette hausse de marché, les arguments pour, contre. Aujourd'hui, on est sur une respiration en tout cas. 15 minutes de cette clôture, le CAC perd 0,5%, 8163 points. Stellantis, Lanterne Rouge, moins 4. Kering aussi recule de 3,6% aujourd'hui. Puis à la hausse, Air Liquide, donc qui va accompagner SK Hynix, vous savez, le coréen pour fabriquer des puces mémoire. Air Liquide investira 200 millions de dollars auprès d'SK Hynix. Oui, et du coup, Air Liquide prend la vague de l'IA également et gagne 2%. C'est la plus forte hausse du CAC cet après-midi. Veolia gagne 2%. Et puis on parlait de Valeo, donc en hausse de 20%, plus 20%. Parce que d'après JP Morgan, Valeo aussi finalement profitera de l'IA en refroidissant les data centers grâce à ses systèmes de refroidissement des batteries. Valeo à 16,86€ en ce moment. On en parle donc avec nos deux experts ce soir. Ils sont là en plateau, Frédéric Ducrozet et Thibaut Prébé. L'Europe, pendant ce temps, essaie de reconquérir sa propre souveraineté, regagner en souveraineté. Le Parlement européen annonce aujourd'hui qu'il abandonne Google au profit du moteur de recherche français Quant. On attend aussi des mesures de Bruxelles concernant les puces, les services de cloud, l'IA dans le cadre de l'action Buy and Use European et les Britanniques, des députés britanniques appellent à rompre un contrat public avec Palantir. C'est une clé ça aussi de la future croissance européenne, la reconquête de souveraineté, Frédéric.
Absolument. D'un point de vue purement macro, ça passe par, encore une fois, se donner les moyens de nos ambitions. Oui. Moi, l'Europe, mon obsession, ça reste de terminer le marché unique, de terminer l'union bancaire, de terminer, commencer et terminer l'union des marchés de capitaux, d'autoriser l'émergence de champions, pas seulement dans la tech. Bien sûr que c'est la finalité. Mais l'exemple que je prends toujours dans ces cas-là, c'est les États-Unis dans les années 90, qui ont passé une législation qui a permis à la petite start-up de San Francisco, la PME du Texas, de se financer par du venture capital, des banques, des entreprises non bancaires dans d'autres États, c'est-à-dire de vraiment créer une union de marché de capitaux à l'américaine. Et nous, on a les moyens, on a la volonté politique de le faire. Et ça, c'est pas, je pense, il n'y a pas de blocage particulier. On a des idées très concrètes comme le 28e régime de Enrico Letta et il ne manque plus que la mise en œuvre. Et il y a toujours une crise, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une élection qui nous empêche de le faire. C'est extrêmement frustrant. Pour moi, c'est ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs que de penser d'abord à la finalité de quelle entreprise on va acheter ou on va soutenir. C'est d'abord de se donner les moyens d'avoir des marchés efficace, qui finance ça à bas coût et si possible aussi de ne pas monter les taux d'intérêt trop dans cet environnement.
Ah, c'est un appel à la BCE. Sujet, non, mais... Suivez votre regard, la BCE la semaine prochaine devrait relever ses taux. Voilà, ces premières mesures annoncées et notamment se passer effectivement de Google pour les outils de recherche, privilégier Quant au Parlement européen, c'est bien, c'est un début. Thibault.
Oui, c'est très bien. J'aurais bien parlé aussi de la BCE parce que je râlerais bien aussi sur cette hausse de taux qui est complètement débile, sauf si elle arrive à ouvrir le détroit d'Ormuz, qui me semble délicat. Effectivement, il faut rappeler que la souveraineté est un enjeu majeur. Quand on voit le délire de Trump, ces guerres, etc., que fait la Chine? Elle dit dès qu'elle est un peu tapée dessus, bon, les terres rares, les gars, c'est bien, mais je vais les garder. Puis tout de suite, ça se calme très vite. Nous, on fait rien parce que comme on est dépendant de toute l'infrastructure pour notre défense, pour notre IT américaine, on peut rien faire. Oui. Donc, commencer par regagner une autonomie, une indépendance qui va nous permettre de nous défendre correctement sans être complètement à poil, parce qu'on peut supporter des taxes sur des vins, on ne peut pas supporter de plus pouvoir tourner tout simplement. Donc ce sujet, il est complètement clé. Ensuite, il faut créer une vraie Europe. Créer une vraie Europe, c'est par exemple, on a eu cette discussion sur Total, qui est agressive mais qui n'est pas fausse, laisser des profits se balader dans certains pays, dont la Suisse, laisser les GAFAM mettre tous leurs impôts en Irlande pour ne pas en payer pendant que les autres... Donc il faut commencer déjà par s'auto-concurrencer entre nous-mêmes. Et ça passe, c'est aussi ça dans la construction. Effectivement, ne plus se taper tout le temps des vétos de la Hongrie ou autre va aider. Donc il faut qu'on termine cette idée que si on veut une force, il faut déjà parler comme un seul et donc pas se plomber les uns les autres. Et ensuite, effectivement, la souveraineté européenne, si elle se fait, compte tenu de la taille du marché qui est énorme, ce sera un atout dans toutes les négociations et de tous les éléments. Et ça nous permettra d'avoir des objectifs ambitieux qu'on ne peut pas avoir si on se tape les uns sur les autres et qu'on n'est pas souverain.
C'est bien, sauf qu'au sein même des pays, on se tape les uns sur les autres. Regardez le plan de défense et d'infrastructure en Allemagne. Il chancelle déjà un tout petit peu quand même. Il est long à se mettre en œuvre ce plan. Keir Starmer est fragile à la tête du gouvernement allemand. Et pourtant, on misait beaucoup sur ce plan pour relancer la croissance croissance européenne.
Bon, il est toujours en cours. Hein, on parle de 1000 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Les Allemands n'ont peut-être pas la culture de la dépense comme on a nous dans ce pays. Ça s'apprend et ça se fait de manière intelligente et graduelle. Donc ils sont
c'est très 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 graduel. Oui.
Il y a quand même. Alors quand vous regardez le graphique, c'est quand même un changement de régime. On double ou on triple parfois sur certains mois les dépenses d'État dans l'infrastructure, la défense en Allemagne, et c'est prévu de durer sur plusieurs années. Quand on parle des data centers, l'investissement aujourd'hui, c'est jusqu'en 2030-2035. C'est la même chose pour la défense, et même pire, entre guillemets. Les carnets d'ordre sont très longs, ça prend du temps. La politique m'inquiète, c'est sûr, parce que non seulement on ne parle pas d'une seule voix, mais on a des calendriers électoraux qui ne sont pas synchronisés. Ça aussi, c'est un problème fondamental de l'Europe. Et donc, on va avoir des élections l'année prochaine, ça ne vous aura pas échappé, dans des grands pays et sans arrêt. Oui. Et Friedrich Merz, effectivement, est dans une situation délicate parce qu'il y a les aspects plus politiques et sociétaux qui sont difficiles à gérer.
On entend parler de possibles élections en Allemagne, peut-être. Friedrich Merz, donc, menacé dans les 6 prochains mois.
On en parle depuis longtemps. Chancel. Effectivement, ça fait un petit moment parce que cette grande coalition est fragile et le reste, et que c'est des grands partis, des vieux partis vieillissants en Allemagne qui ne se sont pas encore renouvelés.
Donc c'est compliqué de lancer un plan aussi gigantesque que ce plan de défense et d'infrastructure qui engage le pays sur long terme. Je veux dire, on est sur une échelle historique avec une coalition si fragile et un plan qui pourrait du coup derrière être remis en cause, qui a du mal d'ailleurs à démarrer.
Je pense qu'il est quand même dans une large mesure irréversible. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Les deux conférences de sécurité à Munich cette année et l'année dernière marquent un tournant majeur pour l'Allemagne. Et je pense que ça, c'est à l'exception de l'extrême droite, l'AFD en Allemagne, partagée par la quasi-totalité des partis. C'est pénible, c'est délicat à mettre en œuvre, mais c'est quand même un mouvement d'investissement public et privé en Allemagne qui est lancé. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça aille plus loin en termes de baisse d'impôts pour les PME, de baisse de la bureaucratie, ce qui est peut-être la priorité numéro un du chancelier aujourd'hui, et permettre de relancer l'emploi dans des industries qui ont été complètement tuées par la concurrence chinoise et par la guerre commerciale depuis plusieurs années.
Oui, dans le désert, il arrive que les fleurs réapparaissent, quoi. Mais elles tiennent pas longtemps, généralement. C'est ça le problème.
Et puis il y a aussi cette idée que l'Europe n'avance que dans des crises. On a maintenant un champ un tout petit peu plus dégagé. L'Allemagne l'avait aussi. Il faut espérer que ces initiatives se poursuivent. Encore une fois, ce plan de dépenses, il est peut-être frustrant et lent dans sa mise en œuvre, mais il est, je pense, irréversible dans son intention.
D'accord. Friedrich Merz ou pas Friedrich Merz? J'ai réussi à le dire deux fois, Thibaut. C'était un pari.
Non, félicitations. Voilà. À la limite, tout le côté fascinant allemand, c'est qu'on, je dirais presque qu'on s'en fout, parce qu'en fait, les gouvernements suivent. Malgré tout, il y a une cohérence. On n'est pas dans des ruptures monstrueuses, comme il y a dans certains autres pays, quand il y a un changement de dirigeant. C'est toute la force de cette très grande coalition auquel, en France, on essaye de s'habituer et que d'autres pays ont l'habitude de mettre en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette cohérence européenne. Pourquoi? Il faut bien comprendre que l'acte de création de la BCE, c'est Mario Draghi.
J'étais sûr que vous alliez nous amener à la BCE et retaper sur Christine Lagarde.
Non, pas du tout. L'idée, c'est de dire
tous
que Mario Draghi,
pourquoi
est-ce qu'il nous fait un whatever it takes? Parce que les pays ne sont pas capables de le faire. Donc, ils se substituent à des pays qui ne sont pas d'accord, ne se parlent pas entre eux, pour sauver, entre guillemets, la zone euro. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'étroit d'Ormuz, c'est un sujet de pays. Dire qu'il faut bloquer le prix du pétrole, que ça coûte de l'argent et qu'après la BCE achète de la dette longue pour mitiger, c'est une stratégie de cohérence entre les deux. Mais les pays peuvent réagir, peuvent faire baisser le prix du pétrole, limiter l'inflation, pas la Banque centrale. Et la Banque centrale, après, elle peut mitiger. C'est-à-dire qu'il faut retrouver cette coopération entre deux instances complémentaires où à un moment, la Banque centrale a tellement tout fait qu'on a oublié que les États avaient le droit de participer. Et évidemment, pour ça, il faut que les États parlent d'une seule voix pour éviter qu'un pays baisse les prix, tout le monde va chez lui prendre du pétrole et ainsi de suite. Donc je pense que, en fait, quelque part, il faut que les États soient forts pour que la BCE ait moins besoin de prendre leur rôle. Et on peut pas reprocher à la BCE de remplacer des gens qui font pas leur job, mais si on arrive à avoir un État qui prend la mesure des sujets et les traite, on n'aura plus besoin que la BCE le fasse à leur place. Et donc je pense qu'il faut pas critiquer la BCE, mais créer les conditions pour qu'elle puisse travailler sur des sujets où elle a la main, elle peut pas faire quelque chose sur le pétrole.
Elle a la main sur les taux. Voilà, elle va relever les taux probablement la semaine prochaine, la BCE, parce que l'inflation accélère en zone euro. On a eu les chiffres hier, 3,2% l'inflation.
C'est débile.
Mais c'est dans son mandat.
Alors, parce que son mandat, ça voudrait dire que son action va réussir à faire baisser l'inflation. Or, ton action va pas faire baisser le pétrole, hein, ça va absolument rien donner. Je vous rappelle une statistique qui m'amuse. En janvier, on était à 0,3 d'inflation en France. Alors, les autres pays étaient au-dessus, mais à la baisse. Quand on passe les taux en territoire négatif en 2019, l'inflation française est à 0,6. Donc on était déjà à une inflation plus faible que celle qui a justifié des taux à moins 0,4. Et aujourd'hui, alors qu'on a uniquement un choc exogène, une tendance d'inflation qui reste très basse, hors choc exogène, on en parle de monter les taux. Je suis désolé, c'est débile.
Et elle commence à s'élargir un peu, cette inflation, Frédéric.
Ce qui m'embête, c'est qu'on a pas l'impression qu'on apprenne énormément de nos erreurs passées. C'est pas du tout 2008, c'est pas du tout 2011. Une hausse de taux que Mario Draghi avait d'ailleurs accepté et voté à l'époque, hein, je le rappelle toujours. Les conditions sont très différentes et il y a vraiment, eux-mêmes le disent, aucune raison de penser que ce choc exogène sur les prix de l'énergie qu'ils ne contrôlent pas va avoir aucun effet sur les salaires de second tour ou sur les anticipations d'inflation. Donc c'est vraiment la peur, le traumatisme de 2022, d'être en retard, de devoir courir derrière. Et je pense qu'effectivement, c'est injustifié.
Est-ce que c'est si grave que ça? Imaginons, ils relèvent leurs taux une ou deux fois cette année, ils les rebaisseront d'autant.
C'est même une bonne nouvelle à terme pour la Fed si elle venait à monter les taux et que tout ça tenait, parce que ça voudrait dire qu'en réalité, on s'est trompé sur ce fameux discussion de R-Star, du taux neutre, qu'il faut être à un taux plus élevé, et ça serait une bonne nouvelle. Mais là, c'est pas ça. La BCE ne vous dit pas, en fait, la croissance est trop forte, il faut que je remonte les taux. Pas du tout. La croissance va aller à zéro dans le meilleur des cas. Oui. Donc, non, il n'y a pas de signe de surchauffe, c'est moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de signe d'accélération des salaires, ils baissent. Il n'y a pas de signe de désancrage des anticipations d'inflation. Je suis désolé, ça me semble être effectivement une erreur de politique économique.
À suivre la semaine prochaine. On sera en spécial dans BFM Bourse, bien évidemment, pour commenter, analyser la décision de la Banque Centrale Européenne. Pendant ce temps, Kevin Warsh, il vit sa meilleure vie, président de la Fed. Depuis qu'il est président de la Fed, Wall Street n'a fait que monter. Il n'y a pas eu une seule séance de baisse à Wall Street depuis qu'il est président de la Fed, c'est du jamais vu.
Il vient de mettre les pieds dans son bureau la semaine dernière seulement.
Il a 7 hausses d'affilée depuis qu'il est président de la Fed. Aucun président, nouveau président de la Fed n'a eu cette hausse.
C'est aussi le premier président de la Fed qui arrive au bureau avec le taux 10 ans à ce niveau-là, qui est le plus haut depuis Alan Greenspan. Et je pense qu'en ayant vendu le cas de baisse de taux avec l'IA qui est désinflationniste, le choc pétrolier qui va passer, ça va lui faire quand même un tout petit coup de froid d'arriver et de, il le sait, que tous ses collègues, y compris Chris Waller, qui était quelqu'un qui allait être avec lui pour des baisses de taux potentiellement, a complètement viré de bord. Et qu'il va falloir, à mon avis, le meilleur cas possible pour Kevin Warsh cette année, c'est qu'il réussisse à ne pas monter les taux. Donc c'est quand même, ça change un petit peu la donne. Mais là aussi, ce serait une bonne nouvelle si tout ça tient, parce que ça veut dire que quelque part, l'économie américaine peut vivre avec des taux aujourd'hui à peut-être 3,5, pourquoi pas 4% un jour. On parle pas de 10%. Le problème...
Ce qui compte, c'est la vitesse.
Et aussi les marchés, parce que vous êtes à un équilibre quand même fragile. Je reviens à ce marché obligataire. Le taux 10 ans, c'est vrai, n'est pas un niveau pour l'instant trop élevé pour casser la croissance ou les marchés. Warsh, on n'a jamais eu encore un premier test, là aussi, en grandeur nature, une conférence de presse. Il va avoir la question... Est-ce que vous pouvez exclure la possibilité de monter les taux cette année? Sa réponse doit être non. C'est possible. Je suis désolé, mais je crois pas que ce soit totalement pricé non plus. Donc, un accident est possible.
Mais il veut pas annuler les conférences de presse, non? Il voudrait pas les limiter.
Effectivement, mais ça, c'est un processus de long cours, une réforme de profondeur de la communication de la Fed, de la guidance, de plein d'autres choses, du bilan, de la régulation. Ça va prendre du temps. La première chose que les marchés veulent savoir le 17 juin, oui ou non, est-ce que vous pourriez envisager de monter les taux cette année?
En tout cas, chapeau l'artiste, toujours pas de baisse à Wall Street depuis qu'il est là.
Je vous rappelle même que Liz Truss est la première première ministre en 50 ans à avoir connu deux rois RN et ça s'est pas bien terminé, donc les stats, c'est sympathique, mais c'est pas toujours un truc...
Oui, et il y a deux rois RN qui ont connu Liz Truss.
Ils sont ravis.